soigneux. Toute cette semaine, Raphaël Rérol rencontre Catherine Millet. Ce soir, regard sur le contemporain.
Bonsoir, Catherine Millet.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons ce soir pour le dernier soir de cette semaine. On a interrompu hier parce qu'on était un peu à court de temps et vous étiez en train de nous parler de la manière dont l'évolution de l'art contemporain actuel ne correspondait pas à ce dont vous aviez rêvé, par exemple au moment où vous avez fondé Art Press ou un peu après.
Oui, oui, moi et d'autres d'ailleurs, parce que ce que je constate, c'est que beaucoup de gens de ma génération, quelle que soit leur activité, qu'ils soient critiques d'art comme moi ou conservateurs de musée ou galeristes, sont des gens qui sont un peu alors à la fois critiques sur l'évolution de ce monde de l'art, parfois un peu découragés ou parfois même avec un peu d'amertume en se disant on a beaucoup travaillé pendant tout le temps de notre vie pour faire connaître des démarches d'artistes qu'on pensait de qualité. Et puis, il y a une telle explosion de ce monde de l'art, qu'il faut d'ailleurs plutôt appeler le marché de l'art aujourd'hui, que cela crée une grande confusion et qu'évidemment, ce qui apparaît en surface pour une grande majorité du public, ce sont ou les œuvres les plus spectaculaires, mais pas forcément les plus intéressantes. Des fois spectaculaires parce qu'elles coûtent très très cher, mais là aussi c'est pas une garantie de leur valeur. Et que toute cette efflorescence, en fait, se fait sur un humus qui, lui, reste assez dissimulé aux yeux du public. Et que un certain nombre d'œuvres que moi ou que d'autres considérons comme très importantes n'est pas suffisamment pris en compte, et même parfois complètement ignoré. Donc, alors, je me souviens qu'hier, vous me posiez la question à propos du fait que je poursuivais Art Press, toujours, que je m'occupais toujours de cette revue, alors qu'après tout, je pourrais me consacrer à mon œuvre personnelle, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, c'est parce que je sens aujourd'hui la nécessité d'une revue comme Art Press qui continue à faire des choix, qui continue à porter un regard critique sur la manière dont les choses s'organisent entre les musées, les grandes galeries, les foires d'art, etc. Essayer d'analyser ce qui se passe là et de pas tout prendre, voilà, pour argent comptant, quoi. En fait, c'est le cas de le dire. Donc, en fait, voilà la raison pour laquelle nous continuons à faire Art Press, c'est dans l'esprit de maintenir un espace au sein de ce monde de l'art contemporain où il y a un certain nombre où il y a une certaine exigence de qualité. Voilà.
Vous parlez d'art contemporain, je sais, vous nous avez dit que c'était ce qui vous intéressait depuis le début. Comment est-ce que vous définiriez, je sais que ça n'est pas un exercice très facile, mais comment est-ce que vous définiriez ce qui est contemporain ? Qu'est-ce qui est ce qui est contemporain ? Il y a une petite parenthèse pour dire que dans la préface de votre histoire de l'art contemporain, enfin, vous avez écrit un livre qui s'appelle Art contemporain, histoire et géographie, hein, je crois, oui, qui est un livre absolument passionnant. Et dans la préface, vous parlez justement de ce mot art contemporain et de la manière très étrange dont tout le monde comprend ce que ça veut dire, alors que personne n'a jamais établi exactement. Enfin, toutes les tentatives pour établir sont floues.
Ça veut rien dire. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut le laisser tomber aujourd'hui et parler d'art, tout simplement. Quand j'ai écrit cette préface, c'était il y a déjà un certain nombre d'années. Et en effet, d'une manière très méthodique, on m'avait demandé un livre, disons, de vulgarisation, assez pédago, comme ça, sur l'art contemporain. Et donc, avec méthode, j'avais commencé par m'interroger sur cette expression « art contemporain » qui n'a pas toujours existé pendant très longtemps. Et même moi, quand j'ai commencé à publier, on parlait plutôt d'art moderne. Bon, où on disait l'avant-garde, où on disait l'art en train de se faire. Mais enfin, bon, on parlait pas d'une manière aussi systématique de l'art contemporain. Et je pense que cet usage de l'expression art contemporain a dû apparaître, disons, à la fin des années 60, dans les années 70, quand il y a eu un début de reconnaissance par le grand public de l'art qui en effet était en train de se faire et que les gens ont bien voulu se dire bah oui ça c'est l'art qui se fait c'est mon époque et c'est l'art de mon époque quoi en fait bon donc on voit bien les exemples historiques que je donnais dans cette préface c'était peut-être Warhol les gens ont compris tout de suite ce que c'était que le pop art ça leur parlait bon et donc en effet ils pouvaient reconnaître Andy Warhol comme un artiste qui leur était contemporain, puisqu'il leur renvoyait dans la figure les images qu'ils voyaient dans la rue ou dans les supermarchés. Bon, ça correspond aussi, par exemple, au grand succès en France de Vasarely, de l'op art. Vasarely, tel qu'il a été défendu par une grande marchande qui était Denise René, il a inondé les grands magasins. Il y a eu beaucoup d'objets qui se sont fabriqués à cette époque-là, qui s'inspiraient de son esthétique de op art. Bon, donc ça voulait dire que quand même, il y avait une grande partie de la société qui acceptait des formes assez nouvelles et qui les acceptait comme étant vraiment le reflet de leur mode de son mode de vie, en quelque sorte. Bon, d'où l'utilisation de ce terme contemporain, quoi. Voilà. Bon. Je pense que, alors, ça correspondait aussi, c'était pour dire que des formes d'art qui jusqu'alors apparaissaient un peu étranges ou un peu inhabituelles, ou en tout cas ne correspondant pas à ce qu'on, la tradition de l'art, s'imposaient, mais étaient considérées quand même comme quelque chose de nouveau. Et je pense que ça a progressivement disparu. Que bon, il y a eu différents moments de remise en cause de cette logique des avant-gardes justement qui étaient toujours dans la surenchère. L'un faisait un tableau en deux couleurs, donc celui qui venait après décidait qu'il n'y aurait plus qu'une seule couleur. Vous voyez, bon, ce type de surenchère formelle comme ça. Bon, tout ça, ça a été beaucoup remis en cause et l'effet, ça a été un élargissement très très grand du champ de l'art contemporain, admettant aussi des formes d'art, d'abord qui n'auraient pas été intégrées auparavant, je pense à l'art brut, peut-être que c'est une des dernières intégrations réalisées par le monde de l'art contemporain, c'est d'accepter à côté d'œuvres, disons, héritières de la modernité, de l'abstraction, enfin de tout ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, on peut tout à fait accrocher des œuvres d'art brut. Voilà. Et ça ne choque personne, et au contraire, tout le monde trouve ça très très bien. Bon, ça c'est un exemple. Un autre exemple, et qui est lié, lui, à la mondialisation, c'est que nous, les Occidentaux, nous avons ouvert nos musées aux formes d'art qui venaient de contrées éloignées, et donc de traditions qui ne s'inscrivaient pas dans la même histoire, qui parfois même n'avaient pas d'histoire. Par exemple, ça a été un des grands effets de l'exposition de Jean-Hubert Martin, qui s'appelait « Les magiciens de la Terre », c'est que il avait exposé à côté d'artistes voilà héritiers de la modernité occidentaux américains français allemands anglais des œuvres d'artistes africains il y avait il me semble des asiatiques bien sûr il y avait sans doute des aborigènes enfin bon on s'est ouvert comme ça complètement à des formes d'art qui maintenant sont exposés au même titre que les œuvres des artistes qui sortent de l'école des Beaux-Arts de Paris. Bon. Donc, comment vous voulez définir l'art contemporain comme ça? C'est pour ça que je pense que maintenant, il faut se dire que, voilà, on vit dans un monde global et s'y mélange des formes de création qui sont les héritières de traditions très, très diverses. Qui bien sûr vont aller en se mélangeant de plus en plus, mais peut-être pas tout le temps, plus ou moins, disons. Bon, donc je ne vous donnerai pas la définition de l'art contemporain.
On s'est approché quand même.
On a tourné
par la négative.
Oui, on a traversé.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'évolution de l'époque tout court, pas celle du milieu de l'art, du monde de l'art, mais celle du monde tout court, qui a tellement changé depuis, notamment en matière de relations entre les hommes et les femmes, qui a beaucoup changé quand même depuis ce que vous décrivez dans la vie sexuelle de Catherine M.
Oui, oui. Parfois, parce qu'on me pose la question, je dis, je suis pas du tout sûre que cet énorme succès de la vie sexuelle de Catherine M. En 2001 serait le même aujourd'hui. Je pense qu'il y avait encore à ce moment-là une ouverture d'esprit, une tolérance sur les questions sexuelles, qui moi d'ailleurs m'avait rendue très optimiste à l'époque, parce que bien sûr le succès du livre me faisait plaisir, évidemment. Mais ça me faisait doublement plaisir parce que je me disais, ben, c'est la preuve que une certaine évolution des mentalités permettait que quiconque n'avait pas forcément les pratiques sexuelles qui étaient décrites dans ce livre, pouvait quand même les admettre, trouver que c'était intéressant que quelqu'un les raconte, ça pouvait donner envie à certains de suivre, faire la même chose. Enfin bon, voilà. Moi, je trouvais que ça, c'était très positif. Et puis, petit à petit, au fil des années, quand même, j'ai malheureusement constaté que il y avait une régression de tout ça. Je trouve que les gens sont de plus en plus intolérants. C'est très curieux parce qu'en fait, les tabous se sont déplacés. Me semble-t-il, quand même, le fait que la société ait quand même accepté de faire une loi pour autoriser le mariage entre les homosexuels, c'est que quand même, bon, maintenant, si on peut dire les choses comme ça, l'homosexualité est rentrée dans les mœurs. Bon, donc ça c'est un progrès. Bon. En revanche, peut-être que l'esprit humain a tellement besoin de tabous que les tabous se sont déplacés. Alors là, récemment, il est devenu impossible pour un homme d'avoir un geste déplacé sans être dénoncé sur les réseaux sociaux. Ça me paraît, enfin, si ça devient un tabou, si les hommes sont obligés de se promener les mains dans les poches, c'est terrible, quoi. Moi, je trouve que on va vivre dans une société où tout ce qu'il y a de spontané, trouble, équivoque, parfois un peu provoquant, parfois même aussi violent dans la sexualité, mais la sexualité est violente, bon, va se trouver interdit si les choses continuent comme ça. Alors bon, j'espère que non, j'espère que c'est un passage comme ça, un prurite, bon, et que ça sera oublié aussi rapidement que c'est né. Mais c'est très curieux, cette espèce. Moi, fondamentalement, je pense que toutes les femmes qui ont orchestré cette campagne qu'on a appelée Balance ton porc, je pense que fondamentalement, ce sont des femmes qui sont terrorisées par la sexualité. Elles sont terrorisées par la sexualité. Et que la plus petite manifestation de désir, de pulsion sexuelle, leur fait peur. Parce qu'après tout, je parle pas une violence qui va jusqu'au viol, ça va de soi. Bien sûr, le viol est un crime et qu'il faut le condamner. Mais lorsqu'il s'agit simplement des méthodes d'approche souvent maladroites de certains hommes, je pense qu'il n'y avait pas lieu d'en faire une affaire d'État. Et puis qu'il faut l'accepter comme étant une des manifestations de cette violence qui est inhérente à la sexualité.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que plutôt qu'une peur de la sexualité, c'est un rejet du rapport de force, et quand même en général qui n'est pas à leur avantage, hein, qu'il y a derrière ce type de harcèlement, et notamment quand c'est un harcèlement dans un cadre de travail par exemple. C'est quand même beaucoup plus ça que la sexualité en elle-même que les femmes en question rejettent. Hein. C'est cette espèce de sexisme implicite qu'il y a derrière les manifestations en question.
Oui, quoique en fait, Je pense qu'une femme qui veut se défendre contre ça a les moyens aujourd'hui de se défendre. Alors, je dis pas dans tous les milieux sociaux, bien sûr, mais je suis persuadée qu'une grande partie des femmes qui ont initié ce mouvement, et a commencé par les actrices de cinéma d'Hollywood, elles ont parfaitement les moyens de résister à l'autorité symbolique d'un producteur de cinéma ou pour d'autres d'un patron. Moi, je suis persuadée de ça. Et donc, et en tout cas, ça, bon, en effet, si ça existe, ne doit pas justifier maintenant qu'on interdise, voilà, toute initiative masculine à l'égard des femmes. Or, il me semble que quand même, ce mouvement a entraîné beaucoup de choses qui étaient très très excessives, en fait, dans la condamnation. Moi, je trouve aussi ce qui est horrible avec ces réseaux sociaux. Enfin, bon, c'est une banalité de le dire, mais c'est que c'est des tribunaux publics en permanence. Je veux dire, maintenant, vous ouvrez la télé et un pauvre gars qui a été soupçonné d'avoir fait des avances dans un ascenseur à une femme, à son nom, balancé comme ça sur une grande chaîne de télévision. Je trouve que c'est horrible, ça. C'est vraiment de la délation, en fait. C'est de la délation.
Pour passer à un autre pan de la...
Je voudrais ajouter une chose, parce que je ne sais pas si on a déjà eu l'occasion d'en parler là pendant nos soirées qui ne sont pas au coin du feu. Ce qui me gêne aussi beaucoup dans cette campagne, où on invoque évidemment la puissance physique d'un homme, ou sa puissance symbolique, par rapport à ce qui serait la faiblesse d'une femme. Le danger, c'est d'enfermer les femmes dans ce rôle de la victime. Pourquoi faut-il que les femmes soient toujours considérées comme des victimes ? Je me souviens d'un livre que j'avais trouvé très intéressant, qui avait été publié il y a maintenant pas mal d'années par Elisabeth Badinter, qui s'appelait, je crois, « Fausse route », et qui était une mise en cause du féminisme. Et des fausses routes empruntées par le féminisme. Et une des choses qu'elle critiquait notamment dans ses pages, c'était que ce féminisme enfermait les femmes dans le rôle des victimes. C'est-à-dire, au lieu de leur apprendre à se défendre à titre individuel, chacune, dans ses problèmes, dans ses rapports notamment avec les hommes, avec les patrons, etc., au lieu de leur apprendre à se défendre par elles-mêmes, on les enfermait le rôle de la victime, et de la victime qui allait chercher la loi pour la protéger. Alors, bien sûr, la loi est là pour protéger la femme, mais il faut aussi, avant de faire appel à la loi, et qu'est-ce que c'est la loi ? C'est le père. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui vont chercher la loi du père pour se défendre parce qu'elles sont des victimes ? Non, à elles de forger leurs propres moyens de combat, de résistance à cette puissance virile qu'elle dénonce.
Mais Catherine Millet, on pourrait vous rétorquer que, un, les campagnes de dénonciation de harcèlement sont une manière de se défendre et d'agir, d'abord, de pas être passif.
C'est donc, oui, c'est sortir. Alors, il y a d'autres moyens que le tribunal public. Il y a d'autres moyens que le tribunal public.
Ça, c'est tout à fait une autre chose. Mais que, donc, c'est une manière d'agir. Et puis, la deuxième chose, c'est que, quand même, des personnes seules, face à d'autres personnes qui ont la force, l'autorité, le pouvoir sur elles, notamment, par exemple, un patron au-dessus d'elle, sont plus fortes à plusieurs que toutes seules. Sinon, il n'y aurait pas de syndicat, par exemple. C'est quand même une manière de se défendre qui n'empêche pas qu'on puisse aussi se défendre individuellement.
Bien sûr, je suis bien sûr d'accord avec vous. Ce que je trouve déplorable, c'est comment aujourd'hui, comment ce mouvement a pu se développer et, comme je disais, envahir les réseaux sociaux et Qui peut contrôler toutes ces plaintes que les femmes balancent comme ça à droite et à gauche sur les réseaux sociaux? Je sais pas ce qui se passe au sein d'un syndicat. Il y a des réunions, on discute, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On s'engage pas dans une action comme ça sur un coup de tête quand même. Bon, un syndicat, c'est fait justement pour que on mesure que sont les revendications, les risques qu'on prend, etc. Bon, là, franchement, ces mouvements de masse, c'est, dans l'opinion, c'est vraiment horrible. Pour moi, c'est vraiment, ça rappelle, je sais pas, ça rappelle, bon là aussi toute proportion gardée, mais c'est la terreur, quoi. C'est quand on envoyait les gens à l'échafaud comme ça, sans procès. C'est vraiment horrible. Ouf.
Bon, alors je passe à un sujet plus léger.
Oui, encore oui, que, oui, qu'on termine pas là-dessus, qu'on termine sur quelque chose qui soit
quelque chose qui n'a strictement
plus agréable à envisager. Parce qu'en fait, je sincèrement, je pense que il y a aussi beaucoup de femmes qui se reconnaissent pas dans ce mouvement.
Mais
beaucoup.
C'est bien. Beaucoup. Voilà, vous êtes leur porte-parole.
Ouais, ouais.
Le sujet dont je voulais que vous nous parliez, c'est que vous parlez dans une enfance de rêve. Donc, je rappelle que c'est le livre dans lequel vous parlez de votre enfance et de votre adolescence. Vous parlez des conversations que vous entreteniez quand vous étiez petite fille avec Dieu.
Oui.
Et c'est un très joli passage.
Quel enchaînement.
C'est un très joli passage. Ben, je vous avais dit qu'on passait complètement à autre chose. Et donc, c'est un très joli, c'est très, très beau passage dans lequel vous expliquiez notamment que vous étiez obsédé par l'idée qu'il fallait nourrir Dieu, ce Dieu qui était tout seul là-haut et qu'est-ce qu'on allait lui donner à manger. Voilà, bon. Mmh. Et alors, pendant que vous parliez, je regardais au-dessus de votre tête une photo de Jean-Paul II qui est posée juste au-dessus de votre tête. Et je me suis demandé, soudain, où est-ce que vous en étiez avec Dieu? Est-ce que vous conversiez toujours avec lui?
Non. Alors, sans doute, sans le savoir, parce que j'ai un surmoi terrible. Donc, je pense que ce qui me reste de Dieu, c'est ce surmoi. C'est-à-dire ce que j'appelais Dieu quand j'étais enfant et que il me rappelait à l'ordre en me disant « Attention, là, tu as peut-être pas bien fait. Aujourd'hui, je l'appelle le surmoi. » Bon, voilà, c'est... Alors... Bon, ce qui ne veut pas dire que le surmoi est Dieu.
La psychanalyse est passée par-dessus.
Voilà, des fois, d'ailleurs, ça m'amuse, parce que je me dis, finalement, mon fonctionnement est resté le même. Je pense que les questions religieuses, évidemment, puisqu'on parle aussi de regarder l'époque, nous met sous le nez que le rapport à Dieu n'est pas réglé, enfin, dans nos sociétés, que ça ressurgit et que ça ressurgit d'une façon violente, m'intéressant à la peinture, forcément, j'ai aussi d'une certaine façon un lien à la religion, parce que la religion dans notre société a produit beaucoup de peinture. Bon,
y compris dans l'art contemporain, d'ailleurs.
Y compris, oui, de l'art contemporain. Mais enfin, bon, il se trouve que j'ai été plus ou moins bien élevée dans la religion catholique, que le catholicisme est quand même une religion incarnée, donc là aussi pour quelqu'un qui se préoccupe du corps et de la sexualité, c'est une chose importante. Donc en fait, ça peut aider à penser, en fait, aussi le rapport que nous avons à notre propre corps, la religion. Oui, donc ça occupe une certaine place. Mais je suis pas... Enfin, si votre question c'était de me demander si je croyais en Dieu, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas.
Il ne reste pas beaucoup de temps avant de nous séparer vraiment, puisque c'est la dernière soirée. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a des critiques qui vous blessent?
La publication de la vie sexuelle de Catherine M. m'a fait le cuire. Alors j'ai quand même aussi eu l'occasion de mener des polémiques dans le domaine de l'art, des fois assez sévères, qui m'ont valu parfois des retours de bâton aussi assez sévères. Pour vous donner un exemple, je me souviens d'être arrivée un jour, nous avions les bureaux d'Art Presse à l'époque, boulevard Saint-Germain, et je sors du métro et je vois sur tous les murs du quartier, placardés des affichettes avec ma tête décapitée. Vous voyez, ça, bon, ça, en fait, ça vous met dans l'ambiance comme ça. Bon, donc ça m'avait un peu ébranlé. Bon, mais voilà, on fait face ou on fait avec. Et puis après la publication de la vie sexuelle, j'ai tout entendu et tout lu sur mon compte. Aussi bien ma personne morale que ma personne physique. Donc en fait, je crois que maintenant, sauf si vraiment, je sais pas, quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime profondément, me faisait un reproche injustifié, oui, je pense que ça me blesserait vraiment. Mais sinon, les critiques comme ça dans le monde professionnel, Non, ça m'amuse, puis je suis quand même assez freudienne, donc quelqu'un qui est vraiment très très violent contre moi, je me dis c'est qui m'aime en fait. Donc, voilà.
C'est bien la psychanalyse. Et vous avez écrit dans le livre que vous avez consacré à D.H. Lawrence, que vous avez écrit à son sujet, qu'en tant qu'être humain, il habite la Terre, mais la marche de celle-ci ne saurait se confondre avec sa propre marche. Mmh. C'est un orgueil ou l'idée qu'on n'appartient pas tout à fait à l'espèce.
Oui.
Est-ce que c'est un sentiment qui vous est arrivé d'éprouver ?
Ah oui, oui, je crois. Ce goût des voyages qu'on a rapidement évoqué, enfin bon, de l'espace par exemple, de la sensation d'espace, et puis l'exigence qu'il y a à avancer, travailler, pas forcément au rythme qui vous est imposé, voyez ? Ça, c'est très très important. Je crois que même tout en faisant un journal, c'est-à-dire un périodique, donc avec un calendrier imposé, très très contraignant, je pense que même à l'intérieur de ce travail, j'arrive et nous arrivons, par exemple avec l'équipe du journal, à sortir du rythme de temps en temps et à vivre à notre propre rythme, à nous décaler par rapport au monde tel qu'il tourne justement. Bon. Et que c'est ça ce qui fait aussi ce qu'il y a de précieux dans notre travail.
C'est aussi le point de vue de l'écrivain qui a un rythme complètement
bien sûr, oui, oui. Alors ça, c'est autonome. C'est ce que j'éprouve. Oui, oui, oui. D'ailleurs, moi, je travaille le soir. Après une journée de travail à Art Press, je rentre chez moi et Jacques et moi dînons à l'heure espagnole, donc très tard. Pendant cette soirée, comme ça, je travaille. Et c'est vrai que c'est un moment hors temps, en fait. Mmh. Alors, encore plus pour quelqu'un qui est dans l'autobiographie et qui fait des retours en arrière, comme ça. Mais même indépendamment de ça, le rythme d'un texte, le rythme des phrases qu'on enchaîne les unes derrière les autres. En fait, à un moment donné, ça vous prend comme une toile d'araignée. Vous êtes dans cette exigence comme ça d'une structure qui, en quelque sorte, vous emporte et enfin se déploie et dans son déploiement vous emporte vous. Et ça, c'est un rythme qui n'est pas celui du temps ordinaire, j'ai envie de dire, en fait. Mmh. Moi, j'aime beaucoup. À la limite, je me demande si écrire, pour moi, c'est pas aller chercher à vivre selon un rythme qui n'est que celui de la langue que je suis en train d'écrire, quoi, en fait.
D'être complètement absorbé là-dedans.
Oui.
Bon, écoutez, c'est un très beau mot. Hein. Je trouve que on peut se quitter presque sans regret.
Je peux aller travailler alors maintenant.
Vous pouvez aller travailler, on va lever le camp.
Merci.
En tout cas, je vous remercie infiniment. On a passé une très belle semaine avec vous.
Merci, moi aussi, c'était très agréable.
Et bonne fin de soirée.
Merci.
Au revoir, Catherine Millet.
Au revoir.
Fin de cette rencontre de Raphaël Rérol avec Catherine Millet. À voix nue, réalisation Franck Lilin. Prise de son, Clémence Bonfils. Coordination, Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.